Tout de suite, retrouvez C'est si bon, la nouvelle émission gourmande de Radio MDM en partenariat avec la Villa Mirasol de boulevard Ferdinand de Candeau à Mont-de-Marsan.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, des petits rien du tout. C'est tellement, tellement bon.
Bienvenue à la Villa Mirasol, où nous allons prendre le temps de découvrir tout au long de cette année des producteurs, des artisans, des agriculteurs, des éleveurs qui s'affichent ou pas à la carte de cette maison d'exception.
De la tourtière à la truite, du fromage à l'entrecôte, en compagnie du chef Armando Noguera, nous explorerons le terroir landais qui regorge de surprises gustatives.
Nous nous intéresserons aussi dans ce magazine au concept de slow food.
Au début des années 80, un groupe de gourmets piémontais mené par Carlo Petrini porte un nouveau regard sur l'alimentation, l'agriculture et la gastronomie.
En 1986, ce mouvement devient protestataire et militant en réaction à l'implantation d'un McDo au cœur de la Rome historique. Il choisit de se nommer Slow Food par opposition à l'invasion de la malbouffe et du fast-food.
À quelques encablures du centre de Mont-de-Marsan, sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont, Mélanie Martin, agricultrice de 30 ans, cultive depuis 2013 une cinquantaine de variétés de légumes, souvent anciennes, sur 5 hectares de plein champ et sous plus de 3000 mètres carrés de tunnels, avec le concours de 5 salariés. 90% de sa production est écoulée en vente directe à la ferme le jeudi ou par le canal des 90 adhérents de la MAP du Moon qui œuvrent pour le maintien d'une agriculture paysanne. Forte d'un BTS de production horticole, Mélanie a fait le choix de convertir en agriculture biologique la ferme de Bureté, exploitation agricole centenaire de la famille Martin depuis 3 générations. Bernard et Gisèle Martin, ses parents, s'y occupent encore de la culture du maïs et des asperges. Militante d'une alimentation locale et éco-responsable, Mélanie défend au sein du syndicat agricole MODEF, entre autres sujets, l'accès à la terre des jeunes agriculteurs non issus du milieu agricole. Voilà une jeune agricultrice volontaire qui a fait des choix de vie bien déterminés.
Bonjour Mélanie Martin.
Bonjour.
Alors comme ça, l'agriculture c'est une affaire de famille ?
Et oui, donc je suis la troisième génération d'agricultrice sur la ferme, donc ferme familiale du côté de mon père, et mes grands-parents étaient déjà agriculteurs aussi, voilà.
Et alors, l'évolution sur trois générations, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ?
Oui, donc première génération, donc celle de mes grands-parents, petite ferme, donc issue de l'exode rural de la Haute-Lande, qui est venue s'implanter aux portes de Mont-de-Marsan sur une petite structure. Et lors de l'installation de mon père dans les années 80, donc lui s'est agrandi parce que les voisins partaient aussi à la retraite. Donc petit à petit, il y a eu un remembrement qui s'est fait sur l'exploitation, donc pour atteindre aujourd'hui entre 80 et 90 hectares. Et du coup, moi, je me suis installée il y a 6 ans maintenant sur une plus petite surface, au départ sur moins d'un hectare. Et aujourd'hui, avec la progression de mon exploitation, on arrive à 5 hectares, dont 3000 m² de tunnels. Voilà.
La transition, Mélanie, elle s'est faite naturellement, c'est-à-dire que tu as eu envie très naturellement de poursuivre l'aventure.
Oui, du coup, depuis toute petite, j'étais dehors. Dehors dans le jardin et j'ai fait toutes mes études dans l'agriculture. Bac, BTS et notamment un certificat de spécialisation en agriculture biologique. Voilà, donc c'était vraiment une continuité.
Et donc tes parents exercent encore sur la ferme ? Comment ça s'organise votre petite vie d'agriculteur là, tous ensemble ?
Alors du coup on a créé deux structures. Moi quand je me suis installée, donc, j'ai vraiment créé ma structure de mon côté en bio. Et il y a encore actuellement l'exploitation de mes parents qui ne sont pas encore à leur retraite, qui eux donc font encore du maïs et des asperges principalement, mais en vente directe également.
Et tes grands-parents, ils étaient aussi maïs asperge ?
Mes grands-parents, oui, étaient également maïs asperge. Et mon grand-père avait commencé la culture d'asperges. Ça a été l'un des pionniers aussi avec, au niveau départemental à planter des asperges.
Et donc aujourd'hui, vous êtes complémentaires ?
Alors aujourd'hui, donc, on n'est pas forcément complémentaires. On travaille ensemble, ça c'est sûr, parce qu'il y a une entraide forte entre nous. Mais on a encore nos deux structures qui sont séparées. Et chacun va qu'à ses occupations, on va dire, mais de manière parallèle, tout en gardant une certaine complicité.
L'agriculture biologique, Mélanie, elle est venue naturellement dans ton parcours ?
Oui, elle est venue très naturellement depuis les années étudiantes. Quoi. J'ai eu une vraie sensibilité à cette agriculture-là. Et donc, c'est pour ça que je me suis aussi orientée vers un certificat de spécialisation pour aller plus loin sur les techniques en agriculture bio et de suite les appliquer ensuite sur la ferme. Et alors aujourd'hui, j'ai un peu converti aussi le reste de la famille, on va dire, parce que sur la grande culture, donc sur l'exploitation de mes parents, il y a une grosse partie qui est en train de basculer en bio et qui est déjà en bio.
Facile de les convertir ?
Oui, facile de les convertir parce qu'au final, si moi j'ai cet aspect-là un peu éthique au niveau agricole, ça vient aussi de mes parents qui ont... Mon père a toujours respecté la terre, il était dans le système, mais au fond de lui, il y a toujours eu une sensibilité, du côté de ma mère aussi, et ça peut passer par des petits gestes, on a toujours recyclé le plastique, on n'a jamais balancé n'importe quoi dans les champs, etc. Et donc je pense que ça vient également de là, je me suis construit quelque chose, mais il y avait quand même, au niveau familial, une certaine approche de cette agriculture-là.
Et donc c'est une forme de militantisme aussi qu'on retrouve chez toi par d'autres aspects.
Oui, c'est ça. Le militantisme est également familial, on va dire. Et du coup, c'est vrai que j'ai envie d'être plus acteur du monde agricole et de pas subir un petit peu ce que le modèle agricole qui a été mis en place a fait subir, on va dire, à une certaine génération d'agriculteurs. Et donc du coup, une indépendance assez forte, ne pas vouloir rentrer dans ce système-là et militer pour autre chose.
Ce militantisme familial est maintenant personnel, Mélanie, on peut en dire quelques mots ?
Oui, on peut en parler, sans souci. Je suis là aussi pour ça, c'est-à-dire que je suis donc présidente des jeunes agriculteurs du MODEF. Donc le MODEF, c'est un syndicat de gauche qui défend les petites et moyennes exploitations, historiquement très présent au niveau du département. Et donc à l'heure actuelle, qui pareil est un syndicat d'opposition, où on pèse à peu près 30% aux dernières élections de la Chambre d'agriculture, et où on essaye encore une fois de prôner un autre modèle agricole, quoi, et d'avoir la défense des petites et des moyennes exploitations, à la fois en englobant la durabilité des systèmes agricoles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il faut voir plus loin que la fracture entre deux modèles agricoles, mais à ce que chaque agriculteur ait un revenu suffisant, en prenant en compte, l'environnement, le respect aussi d'une certaine qualité, mais aussi au niveau social que l'agriculteur se retrouve au sein de sa ferme en tant que chef d'exploitation, certes, mais en étant vraiment maître de ses décisions, ce qui a été perdu dans certains systèmes.
Et donc tes fonctions à toi, Mélanie, au sein du MODEF, on peut le dire.
Donc là, je suis présidente des jeunes et je suis vraiment très active au sein du syndicat, au niveau du bureau et du conseil d'administration. Et je pilote également, on va dire, une grosse partie de l'équipe salariale du syndicat. Voilà. Et parallèlement à ça, on a une association qui s'appelle l'ALPAD, qui est donc l'association landaise pour la promotion de l'agriculture durable. Qui est là pour aider les agriculteurs à développer des nouvelles techniques agricoles. Et donc là, c'est pareil, un engagement au bureau de cette association pour trouver des clés de développement et encadrer aussi l'équipe salariale en fonction des directives du CA.
Est-ce que tu as des exemples d'actions récentes ou de projets qui ont abouti récemment ?
Oui, pas plus tard qu'il y a 15 jours, première farine de blé paysan qui a été moulue dans les Landes par un collectif d'une dizaine d'agriculteurs qui a ensemencé du blé paysan, donc, c'est-à-dire des semences issues de semences paysannes et non hybrides. Et donc on est en train de construire une filière. L'idée, donc pareil, du MODEF, c'est d'essayer de mettre en place toujours une corrélation entre les idées et la pratique. Donc, de mettre en place une filière, ça signifie de pouvoir assurer à l'agriculteur son revenu, c'est-à-dire qu'on maîtrise à la fois le champ, la technique culturelle, mais aussi la commercialisation et être maître de son prix. Donc ça, c'est important. Et nous, la force que l'on a, c'est qu'on mutualise, c'est-à-dire que la commercialisation sera mise en commun et pour être plus fort, avoir un même prix partout dans les Landes et mutualiser l'outil de production, donc réduire les coûts de production pour l'agriculteur. Donc avoir une vision globale et accompagner jusqu'au bout les projets, donc la première farine qui a été moulue. Et en plus de ça, on a essayé de mettre en place des relations avec, on va dire, la restauration du patrimoine et notamment le moulin avant de Bénesse-les-Dax qui accueillera une partie de la farine sans gluten qui sera produite sur les exploitations.
Du coup, qualité de vie et qualité de produit, c'est un peu les deux piliers du MODEF.
C'est ça. Et surtout, voilà, on revient sur une rémunération juste pour les agriculteurs qui se sentent vraiment dans leur ferme, voilà, qui sentent bien d'être là et qui ne supportent pas eux seuls le poids de la société en faisant des heures en pagaille et pas de rémunération derrière. Et ça, c'est ce qui pèse de plus en plus, notamment sur les jeunes générations qui ne veulent pas, ce qui est compréhensible, ne reproduire un schéma dans lequel certains exploitants se sont mis se sont enfermés avec un travail acharné et pas de rémunération derrière.
Et donc toi, sur ton exploitation, tu arrives à mettre tout ça en place ?
Oui, non, pas du tout. C'est-à-dire que sur le secteur du maraîchage, c'est vrai que ça demande beaucoup d'implication. Et en fait, moi, je vends toute l'année. Donc, c'est-à-dire que vendre toute l'année, ça veut dire récolter toute l'année, mais ça veut dire du coup semer ou planter toute l'année également. Donc c'est vrai que les semaines sont bien chargées en termes de temps de travail. Et en plus de ça, l'activité syndicale qui est faite de manière très bénévole. Donc du coup, ça fait un emploi du temps bien, bien chargé. Oui.
Tu peux revenir sur ta ferme, nous présenter un petit peu de ton activité, Mélanie ?
Oui, donc à l'heure d'aujourd'hui, il y a donc une cinquantaine de légumes en production sur tout le long de l'année. Et la complexité, c'est qu'à ces 50 légumes, on rajoute une dizaine de variétés, voire une quinzaine en fonction des variétés de légumes. C'est-à-dire qu'on peut retrouver sur ma ferme 15 à 20 variétés de tomates, une dizaine de variétés d'haricots secs, 5 ou 6 variétés d'aubergines, pareil sur les courgettes, enfin, plein d'exemples. Donc à la fois il y a 50 légumes plus la multiplication des variétés, ça fait un gros calendrier culturel, on va dire, à gérer tout au long de l'année, mais c'est ce qui permet aussi d'avoir une diversité à proposer à la clientèle. Et ça, c'est un gros travail que j'ai effectué en amont avant mon installation pour essayer vraiment d'avoir on va dire un panel de légumes à proposer toutes les semaines. Ça, c'est vraiment, je pense, un atout lorsqu'on vient chercher des légumes sur la ferme, c'est-à-dire qu'on n'a pas que les 5 légumes de base, on va dire, pour la soupe ou pour l'été, mais on trouve aussi d'autres choses qui permettent de cuisiner autrement, quoi. Et ça, c'est important.
Là, tu disais toutes les semaines parce que tu travailles essentiellement en circuit court, en fait, entre les AMAP et les gens qui viennent sur la ferme.
Oui, c'est ça. Donc, principalement que de la vente directe. Et donc, on peut élargir en disant vente directe, donc directement quand vous venez à la ferme, en panier, vente de légumes sous forme de panier à la MAP de Mont-de-Marsan, mais aussi vente directe quand on est toujours maître de son prix, c'est-à-dire que je vends à un magasin de producteurs sur Villeneuve-de-Marsan, par exemple. Donc, je considère que c'est de la vente directe parce que c'est moi qui fixe le prix au magasin. Il n'y a pas d'intermédiaire entre moi et le magasin. Donc, en gros, tout mon circuit de vente est basé sur la vente directe. Et ça, je savais que je voulais m'orienter vers un système comme ça où je pouvais, de toute manière, déterminer mon prix de vente, mon prix de revient, mais aussi mon prix de vente, quoi, et être libre de ça.
On imagine, Mélanie, entre ce qu'on vient d'évoquer au niveau de tes activités syndicales, de tout ce que tu as mis en place sur ton exploitation, tu as évidemment une vue, une opinion sur le futur de l'agriculture, Mélanie.
Oui, j'ai une opinion sur le futur et je suis assez inquiète, on va dire. Je suis assez inquiète parce que j'ai l'impression qu'il y a une fracture qui se crée entre deux agricultures qui sont en train de s'opposer, alors qu'il ne faudrait pas qu'elles s'opposent. Il faudrait qu'on arrive à amener tout le monde. Moi, mon but, c'est qu'aucun agriculteur reste au bord du chemin, qu'il puisse évoluer en fonction de la société, en fonction des attentes sociétales, notamment de la nouvelle consommation qui est en train de se mettre en place. Or, cette fracture, elle est en train de se créer entre agriculteurs, mais aussi avec la société de consommation. C'est-à-dire que les consommateurs attendent de nous beaucoup de choses sans forcément connaître un petit peu nos méthodes de travail. Et c'est vrai notamment sur l'élevage, où ça me fait assez peur d'avoir des notions clivantes entre pas d'élevage ou pas de viande et que du légume. Donc je suis assez mal placée pour dire ça parce qu'au final je vends des légumes. Mais notamment en agriculture biologique, si moi je n'ai pas d'animaux sur ma ferme, l'essentiel de ma fertilisation est issu des fermes aux alentours qui ont de l'élevage. Parce que pour produire de l'agriculture biologique, il faut des fientes, donc il faut un amendement naturel. Et ça, il n'y a que les animaux qui peuvent me l'amener si je ne veux pas dépendre encore une fois d'une industrie, on va dire, qui peut permettre d'avoir des engrais bio. Mais le but, c'est d'avoir une vraie cohérence. Et donc, du coup, moi, ma base, elle s'appuie sur les fermes environnantes qui me donnent, on va dire, ma matière première pour faire pousser. Et donc de ne pas connaître ça par rapport à la société de consommation et ce clivage-là me fait assez peur parce que l'élevage, donc, il n'y aura pas d'agriculture bio sans élevage et les paysages français ne seront pas ce qu'ils sont aussi s'il n'y a pas d'élevage pour les entretenir. Et pas plus loin que dans les Landes, au niveau des Barthes, si on prend la notion environnementale des Barthes, elles sont là grâce aux bovins et aux chevaux qui sont en place, quoi. Pour pouvoir justement brouter tout au long de l'année et avoir des paysages ouverts, alors que si vous sortez directement l'élevage, c'est vraiment la friche qui se met en place, donc on change de milieu. Et donc pour préserver ce milieu-là, il faut un élevage, et notamment dans les Barthes, il y a de moins en moins d'agriculteurs, enfin, notamment, c'est un peu récurrent au niveau français, il y a de moins en moins d'installations, il y a de moins en moins d'agriculteurs, mais ça va être une vraie problématique dans les Landes, au niveau des Barthes, d'avoir moins de bovins qui vont pouvoir entretenir ces paysages-là.
Des Barthes à Saint-Pierre-du-Mont, tu peux nous détailler un petit peu de ton travail sur l'exploitation, comment ça se passe ?
Donc, comme je disais un peu tout à l'heure, le travail au quotidien, c'est de la plantation, et beaucoup de récoltes toutes les semaines avec, on va dire, une touche d'entretien ou une pointe d'entretien, c'est-à-dire du désherbage, entretenir les plantes, faire en sorte qu'elles ne manquent de rien pour leur bon développement. Mais ce qu'il faut savoir quand on fait de la vente directe, ce qui prend énormément de temps, c'est à la fois donc la récolte et le temps de vendre. C'est-à-dire que lorsque je me suis installée, je me suis bien rendu compte que si je voulais faire de la vente directe, le temps que j'allais passer avec la clientèle, mais j'allais pas pouvoir être au champ en train d'arroser, planter, etc. Du coup, ça a été d'entrée le choix d'avoir des salariés pour pouvoir pleinement réaliser la vente directe. Donc certes, ça a un coût, parce que c'est un engagement fort de la première année, pouvoir embaucher quelqu'un. Mais c'est ce qui m'a permis aussi d'avancer et de me dire, là on y est, on n'a pas le choix que d'avancer et de faire en sorte de trouver les solutions pour pouvoir produire correctement afin d'assumer la globalité de l'exploitation.
Alors un salarié, Mélanie, et puis toi de façon générale, tu vis bien de ton métier ?
Alors, de façon générale, là, ça fait 6 ans que je suis installée et donc on sait que les 5 premières années d'installation d'agriculture sont toujours difficiles parce que, comme je le disais au départ, j'ai vraiment créé ma structure. Donc, si vous demandez à mon père de faire pousser un pied de tomate, ça va être compliqué pour lui. Il y avait, même encore aujourd'hui, je ne suis pas sûre qu'il y arrive. Il n'y avait rien sur place. Donc, il a fallu que j'achète les serres, que je mette en place l'irrigation spécifique au maraîchage, acheter du matériel spécifique, etc. Donc, il y a eu pas mal d'investissements. Et donc, en gros, généralement, les 5 premières années sont vouées à financer et autofinancer l'investissement de l'installation. Et donc, du coup, par rapport aux revenus, le but, c'est d'arriver... là, j'ai à 5 emplois qui sont pérennisés. Il y a 2 autres personnes qui viennent régulièrement travailler sur l'exploitation. Et du coup, c'est de pérenniser cette exploitation-là et d'arriver à ce que le modèle que j'essaye de mettre en place soit durable dans tous les sens du terme. Dès que je me suis installée, je voulais que ce soit cohérent au niveau social également. Et la difficulté, c'est que aucun, on va dire, des salariés qui sont sur l'exploitation n'ont été formés pour le maraîchage, et encore moins pour le maraîchage biologique. Donc du coup, petit à petit, il faut les amener à appréhender le métier et à les former. Donc pratiquement aucun des salariés ne sont diplômés, et ça a été un vrai travail avec eux d'arriver à les amener au métier auquel ils sont formés actuellement. Ils sont pour le moment tous restés, et il y a une grosse partie de formation qui est prise en compte sur l'exploitation, notamment par la venue de stagiaires de plein d'endroits différents, de plein d'établissements différents, que ce soit agricole ou pas, et notamment des jeunes de l'EUREA qui viennent de Saint-Pierre-du-Mont, qui viennent tous les trimestres en stage pour pouvoir un peu se former au maraîchage bio, mais surtout pour appréhender un métier, quoi. Appréhender un métier avec des horaires, avec une certaine rigueur. Ils sont dans la nature, ils sont encadrés, parce que justement, le but du métier, c'est de ne pas travailler. Enfin, moi, je le vois comme ça, de ne pas être seul. Et donc, du coup, toutes les tâches se font à plusieurs, et on n'est jamais isolé dans son coin. Voilà, on travaille de manière en équipe afin de faciliter les tâches qui sont quand même assez difficiles, quoi.
Mmh. Il y a une vraie vision d'ensemble, Mélanie, dans ce que tu nous présentes au niveau de relationnel, de la terre, du travail des légumes. Enfin, c'est un vrai projet, une vraie vision de vie, quoi.
Oui, oui. Ah oui, ça, c'était assez fort dès le départ, quoi. Ça, c'est assez fort de ma part, de vraiment... voilà, je pourrais pas me regarder dans la glace si je me disais qu'il y avait un salarié, ou... Enfin, j'appelle ça des salariés, mais s'ils sont... Parce que c'est leur statut. Mais c'est des collaborateurs, quoi. Comme on dit aujourd'hui, s'ils sont pas là, ben, moi, je peux pas vendre. Donc, il y a une vraie relation avec eux, et donc je dis pas que voilà que je suis parfaite, il y a des choses sûrement à améliorer, mais du coup c'était vraiment une vraie envie que tout le monde puisse évoluer et prendre sa place dans l'exploitation. C'est ça qui est important. J'ai pas d'associé, mais ça aurait pu aussi passer par ce statut-là. Ça s'est pas fait parce que les personnes que j'ai rencontrées n'étaient pas prêtes à ça, mais ça aurait pu être une vision différente aussi.
Pour conclure cette émission, habituellement, Mélanie, on demande à tous les invités qui passent par la Villa Mirasol de nous parler de leur produit favori, de leur produit chéri. Alors, le tien, c'est lequel ?
Alors, le mien, c'est lequel ? Alors, j'ai trop de légumes, mais ce qui peut faire généralement sourire, c'est justement le légume que je n'apprécie pas du tout, du tout, du tout en tant que maraîchère. On va peut-être prendre le problème à l'envers aujourd'hui. C'est la tomate. Donc, grosse contradiction. Maraîcher qui n'aime pas les tomates et qui en produit, on va dire, 6 mois dans l'année avec une bonne vingtaine de variétés différentes. Donc, je n'aime pas la tomate, ni cuite, ni crue, ni la jaune, ni la orange, ni la longue, ni la zébrée, ni rien du tout.
Tu l'aimes pas à manger ou tu l'aimes pas à faire pousser ?
Les deux. Je déteste la manger, et lorsqu'on plante et qu'on fait tourner les premières feuilles de tomate, les feuilles ont vraiment une odeur forte que je n'apprécie pas. Et en plus de ça, elles nous laissent les mains dans un état pitoyable. Donc c'est vrai que la tomate, c'est pas mon produit préféré comparé à certains producteurs ou consommateurs qui s'y jettent dessus.
Et alors ? Du coup, d'habitude, on demande aussi comment vous avez l'habitude de le manger ou de le préparer. Donc là, ça va
donc
être compliqué.
Donc là, gros supplice, non. Après, quel légume c'est difficile, c'est la multiplicité des légumes qui est aussi sympathique à cuisiner, quoi. C'est vrai que moi, je mélange un peu tout. On appelle ça des ragounias en patois, et c'est souvent des ragounias qui sont faites pour manger.
Voilà. On verra avec Armando, mais ce sera peut-être la comment t'as dit, la ragounias.
Ouais, des ragounias.
La ragounias de Mélanie Martin. Bon, on peut peut-être rappeler, Mélanie, alors, est-ce qu'on peut se procurer les produits ?
Alors, on peut se procurer les produits dès le mercredi, donc au magasin de producteurs à Villeneuve-de-Marsan. Ensuite, on finit le mercredi soir à la MAP du Moon à Mont-de-Marsan, où une centaine de paniers sont livrés chaque semaine. Le jeudi après-midi, on va à la ferme de 16h à 19h, où là, il y a deux modes de fonctionnement. Soit les paniers sont déjà prêts en fonction des commandes, ou soit vous venez faire votre petit marché. Et puis après, dans la semaine, il y a quelques commandes qui peuvent se mettre en place, notamment pour Julie, le petit magasin général qui a ouvert il n'y a pas longtemps. Je livre également quelques petits paniers pour des nounous qui sont sensibles à l'alimentation des enfants qu'elles gardent, donc qui proposent chaque semaine des plats bio, dans des collèges aussi, en fonction des événements, etc. Donc ça dépend des semaines et de la saison.
Et donc on imagine qu'une centaine, rien qu'une centaine de paniers à préparer pour le mercredi soir, ça doit prendre un temps monstrueux en fait.
Oui, surtout que la complexité, donc 100 paniers avec 3 types de paniers différents, et donc du coup on arrive à 20 légumes à récolter par semaine facile. Et chaque panier comprend entre 5-6 légumes pour le petit et jusqu'à 8-10 légumes pour le grand. Donc ça veut dire une récolte, un lavage parce que tous les légumes sont lavés sur la ferme. Pas de calibrage parce que j'aime pas forcément ça, et il faut aussi prendre en compte que de consommer ce que la nature nous donne au final. Mais il y a un, on va dire entre guillemets, un emballage, c'est-à-dire que quand il faut que je fasse des poches de 1 kg de carottes, elles sont mises en petits paquets, etc. Voilà, j'essaye de prendre soin des légumes et d'avoir une certaine présentation lorsque je vends mes produits.
Merci Mélanie Marter.
Merci à vous.
Armando, bonjour.
Bonjour.
Pour le jardin de Mélanie et tous ses légumes, qu'est-ce que vous nous proposez?
Aujourd'hui, on va vous proposer, on va associer un produit de l'océan qui est les Saint-Jacques. C'est la saison, on est en plein dedans. Ainsi que les radis de Mélanie. Moi, je lui achète plein de radis, du Blue Meat, du radis Red Meat, du radis Bull, du radis Noir. Et on va associer ça avec une huile de laurier et une crème au réfort. C'est un plat que nous avons actuellement à la carte à la Villa, Mirasol. Donc pour cette recette très simple, pour une personne, on utilise 3 noix de Saint-Jacques, 3 coquilles Saint-Jacques, il faut les ouvrir. On utilise 4 lamelles de radis Red Meat, 4 lamelles de radis Blue Meat. On utilise un petit peu de réfort en poudre qu'on additionne avec 200 g de crème. Qu'on monte, on fait une crème montée tout simplement au réfort. Pour la rendre un peu plus ludique, on rajoute des œufs de truite, on peut mettre des œufs de caviar de hareng aussi, ou si nous avons les moyens, du vrai caviar. Et alors pour le dressage de cette assiette, c'est très simple. Attendez, on va faire une huile aussi de laurier. L'huile de laurier, vous allez cueillir du laurier au fond de votre jardin, que vous mettez infuser dans une huile aux alentours de 100 degrés d'une huile d'olive, et vous laissez infuser pendant 24 heures. Après, vous filtrez, ça vous fait votre huile de laurier. Pour le dressage, nous allons faire une rosace dans une assiette plate. Donc on va intercaler une lamelle de Saint-Jacques, une lamelle de radis Red Meat, une lamelle de Saint-Jacques, une radis de radis Blue Meat. Tout ça, une belle rosace au centre de l'assiette pour vous aider à que ce soit bien centré. Vous pouvez faire ça avec un cercle. Dessus, vous rajoutez de l'huile de laurier, une fleur de sel, un zeste de citron vert ou jaune en fonction de votre goût. Au centre de l'assiette, vous réalisez une jolie quenelle avec la crème montée de réfort. Et vous pouvez décorer avec quelques pousses d'herbe, c'est-à-dire soit du persil, soit de la ciboulette, soit des estragons, soit de la coriandre. Et fleurs de sel, piment, on peut faire. Et ça peut être une entrée très légère pour un début de repas.
Et la crème au réfort, comment on la fait?
Alors la crème au réfort, dans votre batteur, vous mettez un petit peu de crème liquide, 30% ou 35% comme vous le souhaitez, fleur de sel et une pointe de piment, et vous y rajoutez du réfort, soit du vrai réfort râpé, du frais, ou soit du réfort en pot tout simplement. Mais légèrement quand même, parce que les radis de Mélanie sont déjà très parfumés, très amers, très, et aussi doux et suavant en même temps. Donc c'est un très bon produit, sous agriculture biologique, donc c'est très bien.
Et le radis Blue Meat, du coup, il est comment?
Le radis Blue Meat, il est bleu, d'où son nom. C'est un radis qui est en forme de ballon de rugby ou ovale, on va dire, un peu allongé, et il a un liseré violet et blanc à l'intérieur, strié. C'est un peu... il a plusieurs reliefs, quoi, en fait. Ça va du violet très foncé au violet très clair au centre, quoi. Red Meat, c'est pareil, c'est rouge aussi. Et le réfort, c'est radis japonais. De rien.
Vous venez d'écouter C'est si bon, la nouvelle émission gourmande de Radio MDM, en partenariat avec la Villa Mirasol de rue Boulevard Ferdinand de Candeau à Mont-de-Marsan, une semaine sur deux, le mardi à 17h30 et le samedi à 13h30 sur MDM.
C'est si bon. de guetter dans ses yeux, un espoir merveilleux. C'est tellement, tellement bon.